Bonjour, Françoise Trossard et la belle équipe. Pour la récré de France Culture, à l'affiche Joli Dimanche et Plainte de Grincheux, suivi de Ripollin Monocouche, un roman interactif, les personnages Jean-Bernard Pouy.
Sur les conseils de Madame Cunégonde de Montargis-la-Ferté, demoiselle de compagnie de Mademoiselle Isabelle de Vierzon-Fourchambault, elle-même demoiselle de compagnie de Mademoiselle Pulchérie de Montreau-Pithiviers, Albert-Luc Milonnier décida de choisir le bon profil. Et le 13 juillet 1789, le portrait était fini.
Viendront les nouveaux fabulistes, Une vie de bug par Lucas Fournier, et pour le DLA de Jacques Vallée, les spécialistes, Muller, Clément, Mordilla et Beignet.
La situation, moi je ne la sens pas, je ne la vois même pas la situation, je ne la comprends pas parce que j'ai... Et c'est comme ça tout du long. Il ne s'agit pas de cela, il ne s'agit jamais de ça. Il ne s'agit même pas des épaules, il ne s'agit même pas de la beauté de cette femme. Donc ça m'énerve.
Nous sommes ensemble jusqu'à 13h58. Une émission à télécharger pendant un an sur franceculture.fr pour vos collections de papous dans la tête. Merci de votre fidélité et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Vive le dimanche, 7e jour délicieux, à célébrer papouement en pastiche. Jeanne Carillon se prête à l'exercice et quand c'est Jeanne, c'est chanson.
C'est un joli dimanche façon parole et parole. Pendant la semaine, jour après jour, je pense à toi, joli dimanche. Je te reluque, je te fantasme, je te désire sauvagement, j'en fais des nuits blanches. Mon dimanche, je t'attends fermement. Mon dimanche, tu peux bien faire de l'œil au lundi, au mercredi, vendredi et samedi. Moi, mon dimanche, je suis prête pour toi à oublier tout si tu es là pour moi. Dimanche, dimanche, dimanche.
Viens là que je te branche.
Dimanche, dimanche, dimanche.
Je délasse tes hanches.
Dimanche, dimanche, dimanche.
On se fend la tranche.
Dimanche, 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 dimanche. Oh oui, rien que pour moi. Joli dimanche. Quand tu arrives, je me délasse dans ma couette blanche. Oh mon dimanche. Je m'éparpille les papilles, je savoure lentement, plus de pain sur la planche. La brioche, les pains au chocolat, les chouquettes, tu peux bien les offrir le lundi, le mercredi, vendredi et samedi. Mais mon dimanche, je veux te déguster, toujours allongé, toi sur mon oreiller. Dimanche, dimanche, dimanche.
Un peu d'acrobranche.
Dimanche, dimanche, dimanche.
Je retrousse tes manches.
Dimanche, dimanche, dimanche.
Ça va, belle branche.
Dimanche, 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 dimanche. Oh oui, j'ai faim de toi, mon joli dimanche.
Et dans le rôle d'Alain Delon, c'était Patrice Minet.
Quelle merveille.
Et place à un personnage de fiction mécontent de la vie que son papa ou sa maman auteur lui fait vivre au quotidien. Alors il se plaint, il a ses raisons et c'est Lucas Fournier qui nous raconte. Qui êtes-vous, Lucas ?
Grincheux.
Ah, le nain !
Non, c'est vous qui... Je vous remercie.
On dit des gens de petite taille.
Ça commence.
Ça continue. Je vous écrirai après.
Bon, donc là, vous écrivez à votre auteur.
À Disney.
Ah, à Disney. Mmh. Ah.
Disney, Grincheux. Je m'appelle Grincheux. J'ai même pas de prénom, vous n'avez pas jugé utile de m'en donner un, donc souffrez que je vous appelle Disney tout court. Je m'appelle Grincheux et je ne suis pas très content. Non seulement vous m'avez donné un petit rôle, faire le nain, à part chez Victor Hugo, ça n'a jamais fait grimper en haut de l'affiche, mais surtout, vous m'avez donné le mauvais rôle. C'est un double traumatisme. Les autres, mes six compagnons, ils sont petits, ridicules, mais ils ont un supplément d'âme. Moi, pas. Prof se prend pour un Nobel de physique. Dormeur roupille pour oublier sa condition. Au passage, si vous pouviez lui rappeler que dormeur, ça suffit et qu'il n'a pas besoin de rajouter ronfleur à son répertoire. Joyeux et toujours sous l'exomile. Simplet, béati paupère spiritu, ne se rend pas compte de sa situation inhumaine. Timide est en thérapie avec Blanche-Neige, qui va nous le dégeler. Et il y a Hatchoum, mais il se soigne aux huiles essentielles que lui a donné Blanche-Neige, notre naturopathe de service. Hatchoum, qui avec sa manie d'éternuer partout en agitant des mouchoirs douteux, bonjour l'hygiène, m'a infesté de ses micrococcus. Hatchoum ! Alors, non content d'être grinceux, je suis en plus enrhumé. Je résume, je suis laid, antipathique, de mauvaise humeur, j'ai un immonde bonnet de schtroumpf sur la tête et mon nez coule. Merci Disney, merci mon géniteur. Vous ne m'avez pas loupé. Et pour que l'ensemble soit homogène, en cadeau, en geste commercial, vous m'avez affublé de citrolles qui chantonnent des hymnes pétainistes, qui ne se lavent pas et qui se font mener par le bout de leur gros nez plein de vergétures par une princesse d'opérette, minaudeuse et mijaurée, maquillée comme un passeport serbo-croate et qui ressemble à une réclame pour produits de beauté dans un hard discount. Je veux bien râler, puisque c'est mon emploi, mais ce qui m'est fait le plus râler, justement, c'est la nullité de mon personnage. J'espère que vous l'avez fait exprès, parce que me rater à ce point-là, ça tient du chef-d'œuvre. Je comprends que pour le casting, vous ayez besoin d'un affreux. Alors faites-moi en véritable affreux, en désagréable, ignoble, en méchant authentique, pas en rouspéteur de comptoir de sous-préfecture. Je ne dis pas ça pour moi, je le dis pour l'histoire, parce qu'elle est minable, cette histoire. Le scénario ne tient pas debout, surtout la fin, la pomme, l'allégorie du démon et d'Ève, et le coup de la belle endormie genre Ophélie, c'est du réchauffé. Faudrait voir à revoir tout ça. Bien sûr, chez vous, les Américains, l'argent, il y en a, mais les idées, c'est autre chose. Alors, supposons que vous me fassiez un personnage genre Iago. Au moment où le prince charmant arrive, je préviens Timide, qui est secrètement amoureux de Blanche-Neige, et hop, il les surprend, et là, Timide étouffe Blanche-Neige en lui vidant un seau de charbon dans la bouche. Le charbon, Blanche-Neige, le film en noir et blanc, genre Lars von Trier.
Ah ouais.
Et le titre dit Idioten.
Idioten.
Oui. Ou alors je peux aussi vous faire le Thénardier. La sorcière et moi, on s'installe avec la petite et on la maltraite en l'obligeant à porter des seaux de charbon toute la journée dans la forêt. Si le film marche, on en fera une comédie musicale à Broadway et je chanterai I'm grumbling in the rain. Ou alors je fais l'ours. Quitte à passer pour un grognon, je deviens moi-même un ours. Et quand la Blanche-Neige arrive, comme boucle d'or chez les trois ours, encore une idée que vous avez piquée ailleurs, bonjour les plagiaires, je me jette sur elle, je la viole, je l'égorge, et pour ajouter un peu de piment à l'histoire, je vous la découpe en morceaux et je la sers façon ragoût de mouton à mes six petits compagnons, ils vont adorer. On sera dans du Peter Handke version Tarantino. Ça peut cartonner. Maintenant, atchoum! Merci de m'avoir collé chez les tubards. Bon, maintenant, vous faites comme vous voulez. Hein. Je ne suis pas à votre place à gagner des millions de dollars en racontant des fariboles. Parce que moi, le grincheux, supposez que d'un coup, je devienne le gracieux. Là, vous seriez mal. Hein. Je peux le faire. Je mets un sourire dans ma voix. Je danse avec la gamine sans lui marcher sur les pieds. Et je parle aux oiseaux. Et vous voilà bien embêté. Et c'est vous qui allez râler. Alors dépêchez-vous. Je timbre cette lettre en service rapide, même si rapide et poste, c'est un oxymore. J'espère qu'elle va vous arriver vite et que vous allez me répondre de même. Je ne vous serre pas la main. Grincheux.
Oh, il n'est pas si antipathique. Hein. Il en rajoute un peu, quoi. Non.
Oui. Puis il a des bonnes idées de scénar. Je pense qu'il a des chances à Hollywood.
Oui. Jacques Bertrand, vous êtes Walt Disney.
Yes.
Himself. And so, what do you think?
Oh! Non, mais j'écris.
À Grincheux.
À mon ami Grincheux.
Ah, c'est un copain quand même.
Chère créature, votre lettre aurait de quoi me désespérer si je n'avais su, au cours de ma longue carrière, m'habituer à l'ingratitude des personnages. Les Anglais disent « character ». Et nul doute que vous l'avez mauvais. Mais vous n'avez rien compris. Vous êtes mon préféré, cher Grumpy.
Ah, ben voilà.
Dans l'ensemble de mon œuvre peuplée de gentillesse dégoulinante, de bonne volonté, de sentimentalisme à trois pinces, des bambis, des Dumbo, des bonnes fées un peu enveloppées, des souris en couturière, des panthères bonnes copines et des ours bonhommes, des belles un peu bêtes et des bêtes à la beauté cachée, vous êtes, my dear, ma soupape de sécurité. Car au fond, je suis misanthrope, naturellement. L'homme sous couvert de philanthropie prétend faire le bonheur de l'homme et développe les pires idéologies mortifères. J'ajouterai qu'en outre, l'humanité est généralement très mal dessinée. Franchement, il y a de quoi être pour le moins de mauvaise humeur. Comme dirait Gustave, grincheux, c'est moi. Appelez-moi Walt.
Les noirs des seins, comme on dit.
C'est une très belle réponse. Ouais. Alors, grincheux, on pense quoi ?
Il est gracieux maintenant.
Ouais. C'est vrai. Et tout transformé.
Ah oui.
Dit, lui, c'est Joey Ramone.
Les papous, c'est dans la tête sur France Culture.
Et aux papous, c'est l'heure du roman interactif, avec quatre écrivains, Jean-Bernard Pouy, Patrice Minet, Hervé Le Tellier, Eva Almassi, un roman en trois chapitres et un épilogue. Alors, au premier auteur, Jean-Bernard Pouy revient à la tâche délicate mais excitante d'inventer des personnages et une intrigue, de se lancer dans l'écriture et de s'arrêter à un moment palpitant de l'histoire en offrant au suivant un choix entre trois hypothèses de suite possibles, toutes plus exaltantes les unes que les autres. Il faut donner envie à l'écrivain suivant de prendre le relais. C'est donc vous, Jean-Bernard Pouy, qui lancez cette aventure romanesque avec un titre de chapitre.
Il s'appelle « Un cheveu dans la soupe ».
Un cheveu dans la soupe, c'est
oui.
Un bon titre,
c'est,
ça.
Oui, c'est une métonymie, disons. Enfin, bon.
Oui.
Le 17 janvier 1789, grâce aux bons soins de Madame Vigée-Lebrun, Albert-Luc Milonnier reçut sa première commande officielle, celle d'exécuter le portrait d'Adélaïde de Montfort-Fromental, la jeune et jolie demoiselle de compagnie de la duchesse de Lamballe, elle-même demoiselle de compagnie de la reine Marie-Antoinette, oui. Elle-même madame et compagne du roi Louis XVI.
Attendez, je suis en train de dessiner l'arbre généalogique
attendez,
pour qu'on ne soit pas perdu.
Oui. Mais la jeunesse et la joliesse d'Adélaïde étaient gâchées sur la joue droite par une énorme verrue de la taille d'une pièce d'un louis, ce que la médecine moderne aurait nommé un super papillomavirus de type HPV 60.
Ah bon.
Ça jette un froid.
Hein. On va sombrer dans le médical, vous croyez ?
Albert-Luc Milonnier sut immédiatement, en découvrant son modèle, et sans qu'on lui précise, qu'il devait peindre la jeune et jolie Adélaïde de profil.
Oui, or, du bon profil.
Or, ce n'était pas le profil gauche de la jeune femme qui était le plus avantageux, même si la peau était vierge de toute atteinte d'inclusion et isonophile contenant une kératine anormale. Car on pouvait y déceler un certain début de prognatisme disgracieux qui ruinait l'impression de jeunesse et de joliesse de la demoiselle. Alors que de face et de profil droit, si ce n'était le cratère verruqueux, la jeune et jolie demoiselle de compagnie était tout à fait charmante.
Oui.
Et ne parlons pas de ses atours avantageux qui auraient rendu, si elle l'avait connu, le roi précédent complètement maboule. sur les conseils de Madame Cunégonde de Montargis-la-Ferté, demoiselle de compagnie de Mademoiselle Isabelle de Vierzon-Fourchambeau, elle-même demoiselle de compagnie de Mademoiselle Pulchérie de Montreau-Pithiviers, Albert-Luc Milonnier décida de choisir le bon profil en éliminant toute trace de vacuolisation des kératocytes de la couche granuleuse et des couches supérieures de l'épiderme. Le peintre se mit au travail et le 13 juillet 1789, le portrait est fini, magnifique, lumineux, un réel hommage à la jeune et jolie demoiselle de compagnie. Il lui présenta son œuvre, tout tremblant, sûr de son fait, fier de sa délicatesse. Ce qui mit fort en colère la jeune et jolie Adélaïde, qui refusa son portrait, et refusa aussi de payer l'artiste, en hurlant que sa verrue c'était elle, que c'était sa marque, sa différence, sa personnalité, son âme même. Effondré, le peintre prit un pinceau, le trempa dans un gris de Naples et l'écrasa en plein milieu de la joue diaphane, éclairant le haut de la toile. Puis il partit en claquant la porte et quelques invectives comme quoi, un jour prochain, tout allait changer et que les demoiselles de compagnie en auraient plus beaucoup de compagnie, sauf celle des rats des culs de basse-fosse.
Il y a de la menace. Hein, ouais. Alors là, suspense, parce que vous arrivez sur trois possibilités de suite.
De suite. Alors, première hypothèse, en rentrant chez lui, Albert-Luc Milonnier s'aperçoit qu'est apparue sur sa joue gauche une belle verrue disgracieuse. Et son épouse se demande comment il a pu attraper ça.
C'est contagieux.
Deuxième hypothèse, alors qu'Albert-Luc Milonnier est au bord du suicide, le comte de Mirabeau, célèbre orateur hydrocéphale aux grandes dents et au visage tavelé par les cicatrices de variole, lui demande de peindre son portrait. Troisième possibilité, 5 ans après, Adélaïde le recontacte pour lui préciser que c'est justement grâce à sa disgracieuse verrue qu'elle a échappé à la guillotine et que donc elle lui redemande un portrait, cette fois réaliste.
C'est magnifique, hein. D'abord il y a tellement de personnages. C'est une fresque.
C'est que des demoiselles de compagnie, donc c'est pas...
Ah mais ça fait beaucoup de monde
quand même.
Et puis le personnage d'Albert-Luc Milonnier est assez attachant. Oui. Peintre, un peu désespéré, qui a des problèmes, respect de son œuvre ou pas.
C'est un artiste.
Alors quelle possibilité avez-vous choisi, Patrice?
J'ai choisi Mirabeau, c'est-à-dire la deuxième possibilité.
Ah, donc il va se retrouver à peindre Mirabeau et il va essayer de le rendre beau.
Oui. Mirabeau. Alors, j'ai trouvé un titre pour ce chapitre, Un teint bien fleuri.
Non, mais c'est un bon titre. Hein.
Merci. Une semaine plus tard, Albert-Luc Milonnier se présentait au château de la comtesse Lambourg de Loulette, une des plus proches amies du comte de Mirabeau. Ce dernier était présent et, pendant qu'on prenait le thé, la conversation roula autour du tableau désormais célèbre représentant Adélaïde de Montfort-Fromental. On rit beaucoup en évoquant le défaut principal de la demoiselle de compagnie, ce défaut masqué par la projection grisâtre qui maculait sa joue droite. Albert-Luc se défendit de toute interprétation, il était au contraire un fervent adepte de l'hypernaturalisme. Sa seule avancée dans l'art progressif, c'était cette tentative de tachisme, la première dans l'histoire déjà longue de la peinture à l'huile française. Le comte de Mirabeau le mit au défi d'effectuer, par le biais d'un portrait, une avancée dans une autre direction. Et on convint d'un rendez-vous pour la première séance de pose. Le 27 janvier, Mirabeau s'asseyait en face du peintre et de son chevalet. Quand tout fut prêt, Albert-Luc saisit un pot de peinture rouge et en projeta le contenu en pleine face du comte, en épargnant cependant la perruque et le col de dentelle. Deuxième tentative de tachisme, souffla-t-il à l'oreille de Mirabeau. Et là, trois possibilités.
Ah déjà, oui.
Ah oui, là, les événements se précipitent.
Oui.
Première possibilité, Mirabeau le provoque en duel en lui laissant le choix des armes. Albert-Luc propose un duel au pinceau petit gris.
Oui, pas bête.
Deuxième possibilité, on annonce l'arrivée surprise de Louis XVI venu prendre sa première leçon de peinture. Troisième possibilité, Mirabeau, très amusé par l'expérience, poursuit le peintre en lui projetant tout ce qui était à sa portée au visage, en particulier la peinture.
On est, Hervé Le Tellier, dans un pan de l'histoire de la peinture que moi, important. Personnellement, je ne connaissais pas. Je ne sais pas si vous...
Non, moi, je découvre.
Vous découvrez aussi. C'est grâce à Jean-Bernard Pouy et à Patrice Minet. Alors, est-ce qu'on poursuit dans cette direction,
dans une de ces trois directions, oui.
Oui. Non, mais sûr. L'avancée de la peinture.
Bien sûr.
Oui.
En fait, c'est parce qu'il accepte le duel. Donc, ils prennent rendez-vous. Le titre, c'est « Un matin dans la brume ».
Oui.
Titre du chapitre.
Oui.
Rendez-vous fut donc pris pour le lendemain dans la clairière de Boulogne. Albert-Luc Milonnier avait pris pour témoin le vicomte Charles de Saint-Flour-du-Plessis, un ami de la mère d'Adélaïde de Montfort-Fromental,
oui,
et Sigismond Plantier de la Chaise, dont il avait fait connaissance chez le marquis Philibert du Terrail, voici 2 ans. Pour Mirabeau, les témoins étaient André-Pierre de la Perche-Diable, qu'il fréquentait depuis peu, un camarade souffrant de la même affection glandulaire, et oui, et croisé chez le docteur Fulgence Michaud-Bouvier,
ah oui, très
et
connu,
enfin,
oui,
bien sûr,
oui,
et le duc d'Aumale Trapino dit Floupette.
Ah bon ? Ah oui.
Ouais. L'arbitre, enfin, était Pierre Chabert, marchand de couleurs. Milonnier serra la main de Mirabeau et Saint-Flour-du-Plessis tendit aux deux hommes leurs pinceaux sans les emmêler. « Vos couleurs, messieurs !» demanda de la Perche-Diable d'une voix de basse qui lui valait une certaine réputation. « Rouge !» dit Mirabeau. « Je suis l'offensé !» Alors jaune, lança Milonnier. « Alors c'est à vous, monsieur Mirabeau. » Les deux hommes s'éloignèrent à 10 pas. Pierre Chabert, l'arbitre, qui connaîtra plus tard la gloire dans l'armée napoléonienne avec le grade de colonel,
oui,
lança la pièce. Pile, c'est encore à vous, monsieur Milonnier. Milonnier trempa son pinceau dans la peinture jaune et d'un mouvement souple fit un moulinet. La peinture s'éparpilla sur une distance de 5 mètres. Mirabeau était intact. Eh bien, c'est à vous, monsieur Mirabeau, fit Chabert. Mirabeau plongea les poils de martre dans la texture rouge et décida d'un geste plus à l'horizontale. Le pigment, huileux, s'écrasa en paillettes grasses 5 mètres plus loin également sur les taches jaunes déjà au sol. Milonnier était immaculé. Puis ce fut à Milonnier, même échec, à Mirabeau, fiasco, Milonnier, rien, Mirabeau, pas mieux. Il faut les rapprocher, c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça, suggéra Michaud Bouvier, dit Floupette. Et là, 3 solutions.
Oh, déjà, c'est dommage.
Oui. Première option.
Le duel dur.
Du... Eh oui, oui, bien sûr, ça pourrait. J'ai envisagé un instant de le faire durer, mais. Je...
Il n'y avait voilà, plus de peinture.
Mirabeau découvre une légère tache jaune sur son pouce et se déclare vaincu. 2. Milonnier accepte la proposition de Floupette. Les deux hommes sont désormais à 1 mètre l'un de l'autre.
Ouais.
3e option. Adélaïde de Montfort-Fromental a entendu parler du duel. Elle accourt et elle exige que les deux hommes la peignent en orange et par projection.
Ah oui.
Ah oui.
Ah mais elle est tellement moderne. Elle est sentait
d'une modernité totale,
début,
du body art.
Oui. Exactement. Et oui. Ah, je croise les doigts, je ne sais pas ce qu'Eva Almassy ferait pour la suite.
Merci. Bien sûr, je prends la 3e hypothèse.
Et voilà,
elle
accourt,
elle doit être peinte.
Oui.
Et j'ai beaucoup réfléchi au titre,
oui,
au fur et à mesure. En écoutant JB, je pensais à Peau douce, mais enfin, Truffaut l'a déjà pris. Et
oui,
de toute façon, ce n'était pas le cas de la demoiselle.
Oui.
Après, je pensais tout simplement, par anachronisme, à profil d'utilisatrice. Maintenant, il faut introduire nos profils dans Facebook, etc.
Ah, oui,
parce que c'est
oui,
une espèce de Facebook aussi.
Oui, c'est résolument
quelle,
moderne.
Quelle photo
oui,
mettre, quelle image mettre de soi. Elle veut la vraie image.
Oui.
Donc, elle est très moderne en,
bien sûr,
en cela. Et puis après... En écoutant Minet, j'ai pensé à Tachisme, ta mère, puisqu'elle est devenue en quelque sorte la mère, la muse de tout cela. Et puis finalement, avec Hervé, je pensais à Ripollin monocouche.
Évidemment.
Bien sûr.
C'est bien. Moi, ce que j'aimerais, c'est voir le tableau, c'est-à-dire Adélaïde pleine de taches oranges.
Nue.
Qui serait, oui, qui serait enfin, l'œuvre de Milonnier et de Mirabeau quand même. Vous voulez bien le peindre pour nous, Jean-Bernard?
D'accord, mais il me faut un modèle. Hein.
Indifférence par la compagnie Luba.
Si va la vie d'ici, la vie est là d'ici bas. Elle débat et batterie les premiers pas dansés à devant des écoliers. Balancé dans l'air, sans avoir d'air, saoulé dans le temps. Au fond de nuit d'abus du soufflé qui s'est tiré, rissé mon seul ton du blues. Et si c'était ça la vie, et si on nous l'avait pas dit, les piques et pocs aussi va de l'avant, l'aventure est là. Allez, dis-le doux donc, dis, dans des mots doux, dis désir ici, efficace est à pas passer. Sur ton accordéon, tu touches à toucher. Vous les vases, j'ai là du bout des doigts. Donc si nous songes à si tu médites des fois, tu fasses suffire maman une note cassée. Cassée, on n'est plus jamais dans la scène. La musique a fini, mélodie qui vit. Et file la basse en bas, dédicacée, la balade dans l'horizon. Sur ton accordéon, tu touches à toucher. Vous les vases, j'ai là du bout des doigts. Donc si nous songes à si tu médites des fois, tu fasses suffire maman une note cassée. Cassée, on n'est plus jamais dans la scène. La musique a fini, mélodie qui vit. Et file la basse en bas, dédicacée, la balade dans l'horizon. Ainsi va lui battre la vie ça va, tu l'as dit. Au bal aussi, c'est là que t'as tout vu passer, le passé dépaysé. Vas-y, les vasifs, vas-y, l'enfant, tout petit déjà. Jadis, on l'a dit, mais il y a la question comme des oubliés, la passe Koumako. Et si c'était dommage, pas si c'est un hommage aux hommes assis devant, vu de l'avant, l'aventure est là. Allez, dis-le, dis donc, dis, dans des mots doux, dis désiré, si efficace est ta passé. Et si loneliness dispare tout la noche, t'andrai comme bec, qu'un désir ambitieuse, assurément libère, tout de l'animal sauvage, la cause, comme de la hate. T'as beau voir, tu que truc, tu que traque, tu que toque, tu que riga, tu que raca, tu que rigue, ragunana, bebe mille ou cop, petite cabourut. Quelle copa, tu que truc, tu que taca, tu que toca, tu que riga, tu que raca, tu que rigue, ragunana, bebe mille ou cop, une cop, du scope, un vagu. À ton avis, ça se vit. Vite à l'hésitation qui va faire éclater le banc des ateliers. Balancé dans l'air, sans avoir d'air, saoulé dans le temps. Au fond de nuit d'abus du soufflé, il s'est tiré, il s'est bon, c'est le temps du blues. Et si c'était ça la vie, et si on nous l'avait pas dit, les piques et pocs aussi, va de l'avant, l'aventure est là. Allez, dis-le nous dans, dans des mots doux, du désir ici. Et puis cassez ta pente, passez, si toi, tu dois ton droit.
Jacques Jouet, je vous ai offert quel cadeau, deux personnages. Alors, il y avait un être humain, contrairement à la règle de ce jeu des nouveaux fabulistes, il y avait le Minus.
Le Minus, oui.
Ouais.
C'est un petit être humain.
Exactement. Le Minus et la porte étroite, ça faisait très André Gide. Vous l'avez reçu comme ça,
ah,
non?
Ah oui.
Bon. Alors, vous savez quoi? Avant d'entendre votre fable qui a été travaillée longuement à la maison, eh bien, on va découvrir une petite improvisation par Odile Conseil. Elle a eu 20 minutes, comme tout le monde à ce jeu, pour tricoter une fable.
Bon, on va juger, on va savoir si ça vaut la peine de travailler ou pas.
Oui, exactement. Donc, quelques vers, une moralité, naturellement, parce que sans moralité, il n'y a pas de fable.
Évidemment.
Et vous aviez le droit, tout comme Jacques Jouet d'ailleurs, de rajouter un troisième personnage.
Mais je ne me suis pas saisie de ce droit.
C'est bien.
Encore plus fort.
Oh, oui, oui. Donc on en reste à le minus
et la porte étroite. Ouais. Prenez par exemple un minus. Plutôt normal, quoique un peu minus. Pas de voiture, donc pas de bonus, pas non plus de malus. Il prend un jour l'autobus pour aller manger chez Luce. Il y a de la salade russe et de la vodka, tant et plus. Tout est très beau chez Luce, au mur il y a des balthus, des photos d'Yann Arthus et des trucs trouvés aux puces. La parenthèse, je vous la fais courte, le repas est enchanteur, Minus et Luce ne sucent pas que de la glace, ils s'arsouillent à la vodka, et voilà ce qui se passe au moment de partir. Mais la porte est étroite, et encore plus étroite, à qui comme Minus ignore la ligne droite, à cause d'un excès d'alcool de patate. Minus, quoique Minus la rate une fois, et encore la rerate. Il suit une ligne droite et puis soudain déboîte, et ça moche une patte. C'est que, à notre Minus, il faudrait que je puisse, c'est pas que je voulusse rater. mon omnibus. Bon, à la fin de l'histoire, Minus reste chez Luce et ils fabriquent ensemble plein de petits gugus. Moralité. Mmh. Un verre, ça va. Trois verres, bonjour les ébats.
Ah, la moralité est parfaite. Évidemment, il y avait cette rime en us qui était extrêmement porteuse dans tout le début.
Assurément.
Et finalement, la porte étroite ne joue qu'un rôle très secondaire dans l'histoire d'Odile. Mais
sans porte étroite, Minus ne serait pas resté chez Luce.
C'est vrai, il n'y aurait pas eu les gugus.
Voilà.
Chaque jouet, est-ce que vous avez davantage équilibré les deux rôles ou pas?
Non, la porte étroite est aussi un peu tardive, mais...
Oui. Il y a un personnage en plus?
Ah oui, il y a un frigo.
Qui se situe entre les deux?
Le Minus, le frigo et la porte étroite.
Ah.
Tandis qu'il y avait chômage en la demeure, un Minus audacieux obtint de Pôle emploi un CDD de choix. Il s'agissait pour lui de devenir livreur, de machine à laver ou réfrigérateur. Il était minuscule et pourtant courageux. Et dit, ce ne sera qu'un jeu d'enfant de voiturer au sein d'une cuisine ce frigo familial couché dans ma berline. Il le prit sur son dos et bien que le frigo pesât un âne mort et scia ses vertèbres, il le hissa fissa chez un homme célèbre. Oui, vous avez compris, c'était chez André Gide, qui voulait mettre au frais son huile d'arachide. Hélas, trois fois hélas, 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 le frigo n'entrait pas, la porte était coriace et beaucoup trop étroite pour l'envergure de la boîte à fabriquer du froid par l'électricité. Le client impatient était fort énervé et traitant de Minus le Minus avéré, descendit à la cave, voulant jouer les braves. Il remonta muni d'une scie tronçonneuse et trancha le chambranle en disant « je mens ». Enfin là, il a dit une grossièreté dans la fin. N'est-ce pas que le nœud gordien n'est pas une histoire pour les chiens? Or, chose difficile à croire et à entendre, le Minus en question se nommait Alexandre. Le frigo entra donc, mieux que dans un moulin, tout comme au Panthéon fit un jour Jean Moulin. Moralité, les légendes n'ont pas une ride pour les chauffeurs-livreurs d'André Gide.
C'est parfait, c'est magnifique.
Il est descendu à la cave du Vatican.
Oui.
Bien sûr. Mais bien sûr.
Bon sang, mais c'est bien sûr.
C'est les papous, c'est dans la tête, c'est sur France Culture. Au micro, Françoise Tressart et la bande des papous du jour. À suivre jusqu'à 13h58, Je suis une chose. Et un DLA, ou diagnostic littéraire à l'aveugle, avec les experts Dominique Muller, Patrick Beignet, Jérôme Clément et Gérard Mordilla. Je suis une chose, ou plutôt il est une chose, puisque je, c'est Lucas Fournier. Une chose qui a des doutes, qui suis-je, où vais-je, qui croire, à qui parler. Les choses ont une vie, pas toujours grise. Il leur arrive aussi d'avoir une influence sur le monde. Lucas Fournier, vous êtes même une chose importante.
Je suis le bug.
Le bug?
Oui, 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 le bug existe et vous l'avez rencontré, c'est moi.
Ah, mais c'est ça, vous êtes virtuel quand même. Non, vous existez vraiment.
Oui, et alors quand je dis le bug avec l'article défini, le, je me pousse un peu de l'octet. En réalité, je suis un bug.
On dit un bug comme on dit un zébu. Personne ne dira j'ai vu le zébu dans la savane. Non, on dit j'ai vu un zébu, un indéfini. Tous les zébus sont semblables. Tout le monde sait à peu près à quoi ressemble un zébu et tout le monde s'en fiche. Et ben moi, c'est un peu pareil.
C'est un peu vrai, oui.
Je suis une espèce de zébu de l'ordinateur. On ne connaît pas mon nom, on ne me connaît pas, on ne sait pas qui je suis, un parmi tous les autres. Le zébu est toujours seul parmi le troupeau, comme dit Bill Gates. C'est sur Safari, bien sûr, qu'on trouve le plus de bugs et de zébus. Une fois, un bug a voulu jouer perso en se faisant appeler le bug. C'était en l'an 2000.
Oui, c'est
et
ça.
Et il a lui-même bugué. Quand on est un bug, on est sans identité, sans patrie, sans être, sans espérance. Je suis le non-être. On ne sait pas d'où je viens ni pourquoi j'existe. Sioran, c'est Fedo à côté de moi. Souvent, je me dis, j'aurais préféré être un zébu. Au moins, je verrais du pays. Je voulais qu'on m'emmène au bout de la terre. Il me semble que ma matière serait moins pénible au soleil. Alors, j'ai embarqué avec un navigateur et au premier port, c'était Java, il m'a laissé dans un HP.
Oui,
HP comme hôpital psychiatrique.
Oui.
Il m'a abandonné là, au cœur d'un PC secret plein de connexions, de microprocesseurs et d'applications. Super dangereuses, les applications. Elles sont toutes chargées. Moi, en tant que bug, j'essaie bien de m'appliquer avec application, mais je n'y arrive pas. Et il y a aussi des antivirus qui veulent me chasser, me faire du mal. Je résiste. Je suis le bug. Oui, le bug existe et vous l'avez rencontré. C'est moi. Quand je dis le bug avec l'article défini le, je m'avance. Je me pousse un peu de l'octet.
Oui.
En réalité, je suis un bug. On dit un bug comme on dit un zébu. Quoi, je l'ai déjà dit? Bah oui, forcément. Chez moi, c'est ontologique. Je suis un bug. Aussi, je peux me répéter ou me contredire. Je voulais savoir qui j'étais vraiment. Alors, je suis allé sur Internet. Et j'y ai découvert la vérité sur ma naissance. Ma mère est une punaise anglaise. Enfin, une punaise qu'on trouve dans un lit en Angleterre. C'est dans le Haraps. Bug, punaise, off bed. Ah, j'ai vu la photo, ça fait peur. Hein. Même ceux qui ont aimé le film Microcosmos vont détester. Quant à mon père, c'est au choix, toujours selon Haraps, un virus ou un microbe. Moi, je sais bien que ce n'est pas la même chose, mais le dictionnaire ne fait pas la différence. Après, on s'étonnera que l'ordinateur ne guérisse pas si on traite le virus à coups d'antibiotiques. Steve Jobs n'était pas docteur, ça se sent. Donc, je suis le produit des amours illégales de ma mère, la punaise anglaise, avec un virus et ou un microbe. Si ça se trouve, elle ne sait peut-être même pas qui est le père. J'ai peut-être été conçu dans un lit crasseux d'hôpital. Je suis un bébé nosocomial et je ne suis pas seul puisque j'ai des frères par milliers. Je sais qu'il existe des bugs supérieurs avec des algorithmes terribles. Pas moi. Algorithme. Déjà, c'est un mot difficile pour moi. Algorithme. Je ne sais pas ce que Al Gore, l'ancien vice-président des États-Unis d'Amérique, vient faire dans tout cela, à moins qu'il ait connu ma mère dans une ferme africaine pendant un safari, alors qu'il voulait sauver la planète de la disparition des zébus. Si ça se trouve, c'est lui mon père. Ma mère, la punaise, et le président Gore se sont aimés sur le clavier d'un HP au milieu des toiles d'araignée avec autour d'eux des guerriers Peul d'Apple. C'est très Gore, tout ça. Pas très net. C'était quoi le menu ce soir-là? Est-ce que Al Gore lui-même avait un disque dur? Est-ce que vous croyez qu'il y a aussi des zébus dans tous les HP? Où est né le premier bug? Dans l'ordinateur de 2001, l'Odyssée de l'espace? Ça voudrait dire que le bug de l'an 2000, il s'est trompé d'un an? Je suis le bug. Oui, le bug existe et vous l'avez rencontré, c'est moi. Quand je dis le bug avec l'article défini le, je m'avance. Je me pousse un peu de l'octet. En réalité, je ne suis pas un bug, non. Je suis un zébu. Vous avez bien ma souris dans votre ordi. Pourquoi cette haine du zébu? Non, c'est pas bu. Le bug est sobre comme un chameau. Suis-je une fatale erreur? Pourquoi y a-t-il la photo de Zaya nu sur un zébu sur la page d'accueil de votre ordi? Pourquoi la touche ne marche plus? Guérissez-moi, je ne peux plus être un bug. Je veux être un zébu. Au secours.
Il est sympa, hein, il est paumé, mais attachant, je trouve, non, Patrice?
Avec tous ces zébus, j'ai deux grands bugs dans mon étable.
Je ne comprends pas les bugs dans l'étable.
Ah bon?
Non.
Non, mais c'est culturel.
D'avant même la naissance de
Patrice Delbourg.
J'ai deux grands bugs dans mon étable. J'ai deux grands bugs blancs marqués de rouge.
Ah,
c'est
oui.
Ça. Tort, tort,
bon,
tort.
Vous voilà informé, va. Maintenant, revenons au bug, là. Il est mignon, il ressemble pas à un zébu, il en a la nostalgie, il aimerait bien. On aimerait tous être des zébus, d'ailleurs. Donc, vous êtes qui dans l'histoire du
Moi,
bug,
Moi, je suis le clavier. Donc, j'ai souvent affaire, et parfois même à l'origine, peut-être, de celui-là.
Du bug.
Oui, oui, oui. Bah donc, en tant que clavier, bientôt, je serai du passé, une pièce de musée. Maintenant, les claviers sur les tablettes sont virtuels. Un clavier keyboard qui, après Guy Debord, vit dans la société du spectacle. La vie n'est qu'écran, je les réveille de leur veille, les images, les films, les news de New York aux recettes de nouilles à toute heure, tous les jours, sauf quand cet intrus, ce vilain, ce trouble fait, alors même qu'en navigation privée, le type qui me tripote contemple une paire de fesses, bing, le bug, ce drôle de zèbre, zébu, qui vous met des points sur les U. Et ça, c'est authentique parce que une fois, j'ai eu un écran bleu avec que des U, avec des trémas dessus.
Bon.
Et même mon ordinateur était complètement fichu.
C'était vous, Lucas ?
Mais oui, oui, oui. Ben, on c'est pour ça qu'il s'appelle Zébu.
C'était U de Zébu, oui.
C'est le umlaut. C'est comme ça qu'on le reconnaît.
Exactement.
Ah oui, autrement, on dirait Zébu. Oui. Et quand Zébu...
Zébu soif.
Et alors ? Moi, qui aurais pu être clavier de clavecin, de piano, d'orgue dans une église, à moi de supporter qu'au lieu de prier, on enfonce un trio de touches en bas à gauche, en haut à droite, contrôle, alt, supprime, et deux fois s'il vous plaît, pour redémarrer. Avec cette touche contrôle ou alors pomme sur les épaules. Mmh. Que je sois clavier AZERTY ou QWERTY, peu importe, je prends le dessus sur la bête et le type qui me tape dessus peut retourner à ces pages où l'on fait la bête à deux dos. Avez-vous plus de 18 ans? Oui, entrez, non, annulé. J'aimerais voir le mineur qui dira non, non, j'ai pas 18 ans, complètement idiot. L'ordi que je pilote avec les pilotes des programmes a un contrôle parental et, mais ça n'a rien à voir, bug rarement. Je suis d'ailleurs parfois moi-même à l'origine des bugs, du bug, avec mes raccourcis clavier. CTRL-C, copier, CTRL-V, coller, W, fermer la fenêtre, etc., etc. Le gras, l'italique, tout ça peuvent être involontaires. Et bonjour les dégâts, bonjour le bug. Alors, CTRL-Z, comme zébu, Z comme zébu, on peut revenir un pas en arrière. Mais je ne peux pas tout faire. Ma touche A s'est effacée à force de trop servir. Pourtant, c'est le E qui est le plus fréquent dans le français. Contrôle E et je vous centre votre poème en calligramme ou bien vos titres. Mais si c'est l'inspiration qui bug, si c'est votre mémoire qui flanche, vous connaissez la blague. À quoi reconnaît-on un informaticien? Quand sa voiture tombe en panne, il dit « sortons », puis « entrons » et on redémarre. Seulement, contre les bugs, les pannes, guerre de panacée, mais assez, hug, j'ai parlé.
Moi, je me rends compte que je ne comprends pas tout. Je ne dois pas être à niveau au point de vue informatique. Hein. Mais je pense qu'entre le clavier et le bug, le courant doit passer quand même. Parce qu'il est à peu près aussi malade que vous, Lucas. Non
ah oui, on marche à l'électricité. Pour le deux, c'est sûr.
Depuis que je fais de l'informatique, je n'ai plus que des embêtements. Ah mon Dieu, quelle gymnastique, c'est pas tous les jours très marrant. Mais attendez que je vous explique tout ce qui cause mon tourment. J'ai le Mac qui est pas trac, le PC déglingué, le Pentium sans calcium, j'ai l'écran qui est tout blanc, le disque dur, pas bien dur, le clavier tout bloqué, le modem qu'à la flemme, l'imprimante bien trop lente, les cartouches qui se touchent et les buses qui abusent, les polices qui pâlissent, le DVD fatigué, le scanner cassé nerf, le menu pomme dans les pommes, CD-ROM, c'est tout comme la mémoire sans espoir. avoir des options en option. La souris rabougrie, le mulot qui est trop gros. Ah mon Dieu que c'est palpitant toute cette informatique. Ah mon Dieu que c'est palpitant, mais qu'est-ce qu'on perd comme temps. Comme j'ai un bug dans le système, je téléphone au réparateur. Il me demande:
quel est votre problème? Je vous écoute, j'ai un quart d'heure.
Je lui dis: soyez pas si pressé et laissez-moi vous expliquer.
Allez-y.
J'ai le Mac qui est pas track, le PC déglingué. Et puis j'ai ajouté, voyez-vous, ce n'est pas tout. J'ai l'email qui s'en mêle, les circuits qui sont cuits, raccourcis, rikiki. J'ai l'index qui est perplexe, les pixels en rondelles, l'USB constipé. J'ai les bits qui s'agitent, la sauvegarde pas gaillarde, la disquette qui caquette, l'utilitaire qu'a des verres, les icônes qui déconnent, le processeur qui est farceur, le graveur qui est en pleurs, le lecteur qui balbeur, le moniteur et ta sœur. Ah mon Dieu, c'est palpitant toute cette informatique. Ah mon Dieu, c'est affolant, mais qu'est-ce qu'on ferait sans.
Chanson plus bifluorée. Jacques Vallée, il nous rejoint, il est venu jouer avec nous aujourd'hui. C'est lui le piégeur du DLA à venir, mais il ne saurait le faire sans avoir salué auparavant notre jour préféré, le dimanche, par un joli dimanche en pastiche. Et quel pastiche, Jacques Vallée ?
Le joli dimanche de Raymond Queneau.
Ça, même Jacques Jouy n'avait pas osé le faire.
Ah, jamais. Jacques peut très bien le faire, alors là, ouais. J'ai confiance.
D'où qu'ils sont si bons, se demanda Zazie en reniflant son oncle Gabriel. Pas possible, ils ne se récusent à fond le dimanche. Dans le journal, on dit que c'est surtout ce jour-là qu'on utilise les salles de bain, ça m'étonne pas. Tout de même, quel parfum. Gabriel, souriant, la prend dans ses bras, la transporte au niveau de son visage, il l'embrasse, elle l'embrasse, il la redescend. Tu sens rien bon, dit Zazie. Noix tendre de chez Coco, explique le Malabar. Tu m'en mettras un peu dans le cou? C'est un parfum d'homme. D'homme mon cul, dit Zazie. Tu entends ça, dit Gabriel. À table, dit doucement Marceline en apportant le gigot flageolet. Zazie, crie-t-elle doucement, à table. Elle pose le gigot entouré de têtes d'ail, puis la saucière avec le jus, enfin les flageolets égouttés mélangés à du beurre. Zazie vient les rejoindre. Elle s'assied, l'œil vide, mais affamé. Le gigot servi, Zazie se jette dessus, plonge dans la sauce, s'embarbouille. Gabriel se régale également. « Ah ah !» dit-il avec satisfaction. « N'exagérons rien !» dit doucement Marceline. Zazie attaqua de plus belle son assiette. « Tonton !» qu'elle crie soudain, « tu mets la radio ?»« Non. Comment ça, non ?» Elle s'est arrêtée de mâchouiller. Gabriel finit sa bouchée, boit une gorgée de Beaujolais et se met à expliquer. « Ben oui, non. Aujourd'hui, pas moyen, il y a grève. » Il y a grève. Ben oui, il y a grève. La radio, ce moyen de connaissance et de divertissement, s'est endormie dans sa grande maison ronde, car les employés à la langue bien pendue ont cessé tout travail. Ah les salauds, s'écrie Zazie. Ah les vaches, me faire ça à moi. Elle se sent devenir folle de rage, se met à chipoter avec la viande. Mange, dit Gabriel, ne sois pas narreuse. Narreuse mon cul, dit Zazie. « ça va, dit Gabriel. Demain, je t'emmènerai en haut de la tour Eiffel. Demain après-midi. »« Je m'en fous, dit Zazie. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est écouter la radio. » Gabriel sourit. « Ah, dimanche, qu'il profère d'un temps encourageant. Nous allons pouvoir faire une longue promenade dans cette belle ville. Mais auparavant, petite, on va faire une bonne sieste. »« Qui ça, on ?» demanda-t-elle. « Eh bien, toi, bien sûr, » répond Gabriel, pris au piège. « Tu fais bien la sieste chez toi. » Ici et chez moi, ça fait deux, j'espère. Oui, dit Gabriel compréhensif. Et puis c'est dimanche.
Eh oui, sous le pont Mirabeau coule la sieste.
Dernière séquence de ce numéro des Papous dans la tête, le DLA. Un piégeur, Jacques Vallée donc, et quatre spécialistes. Au handball, on les appellerait les barjots, les costauds, les experts. Dominique Muller, Jérôme Clément, Patrick Beignet, Gérard Mordillat, parce que même s'il leur arrive de se tromper, ils sont très forts. Leur mission, analyser, avec des arguments littéraires si possible, analyser et donner l'auteur d'un bout de littérature ou de théâtre, choisi par Jacques Vallée avec l'intention de les troubler. Si ce jeu était facile, ça se saurait. Il ne l'est pas et c'est ce qui en fait le charme. Jacques Vallée, nous sommes concentrés, prêts à jouer avec vous. On écoute ces quelques lignes.
Le grand salon était, comme on dit, plein à craquer. Il n'y avait pas une place libre et, comme je ne sais quoi m'avait retardé, je fus contraint de jouir du spectacle debout. Mais la gaieté de la pièce m'attira de plus en plus en avant et je parvins insensiblement jusqu'au tout premier rang où je me trouvais enfin accoudé au dossier d'un fauteuil occupé par une dame. C'était ma blonde, mais nous ne nous connaissions pas encore et voici qu'inopinément, j'eus sous les yeux ses belles épaules arrondies, si séduisantes, pleines et blanches comme une écume laiteuse, au corps qu'il me fut parfaitement indifférent de contempler d'admirables épaules féminines, ou le bonnet à ruban couleur de feu qui couvrait les cheveux gris d'une respectable dame du premier rang. Près de la blonde était assise une vieille fille mûre de celle qui, comme j'ai eu l'occasion de l'observer plus tard, se niche toujours le plus près possible de femmes jeunes et jolies, en choisissant celle qui n'aime pas écarter d'elle la jeunesse. Mais il ne s'agit pas de cela. Je n'en parle que parce que la vieille fille en question remarqua ma contemplation, se pencha vers sa voisine et, avec de petits rires, lui chuchota quelque chose à l'oreille. La voisine se retourna et je me souviens que ses yeux brillèrent devant moi d'un tel éclat dans la pénombre que, surpris, je tressaillis comme d'une brûlure.
Oh, il l'a très bien lu, hein, puis on sentait l'émotion à la vue des épaules et de ma blonde. C'est joli cette expression, c'était ma blonde, comme s'il avait cherché partout sa blonde, non, Dominique
Müller. C'est un côté québécois.
Sa blonde, mais qu'il ne connaissait pas encore.
Et voilà, et c'est et ça oui. qui est mystérieux.
Et il y a une autre chose très mystérieuse, c'est que voilà, il décrit ses épaules, bien qu'il lui fût parfaitement indifférent de contempler d'admirables épaules. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il venait faire ici, donc
oui, c'est la et question.
Une contradiction, voilà, effectivement.
Total. Oui, on voit total. Très bien. Oui. Total aussi avec la fin, parce qu'il dit « je tressaillis comme d'une brûlure », ça veut dire qu'il n'est donc pas indifférent du tout à cette personne, bien qu'il ne soit évidemment pas venu pour ça.
Mm-hmm. Il est venu faire quoi, Gérard Mordillat ?
Il est venu chercher une femme, c'est un dandy, qui cherche justement avec qui il va passer la soirée.
C'est le contraire de ce que dit Dominique, oui.
Oui, mais je crois qu'il y a bien le côté misogyne du dandy, qui, voilà, c'était ma blonde, il a choisi celle-là pour la soirée, et puis il regarde les autres avec un certain mépris, et même celle-là finalement, puisqu'elle va accepter ses avances.
Bon, enfin, on a l'impression qu'il choisit une pouliche dans l'Assemblée, là.
C'est un peu ça.
Ah, moi, je vois pas ça comme ça.
Non, plus. Non, Jérôme, non, Clément.
Moi, j'ai l'impression que c'est la naissance d'un grand amour, d'une grande passion. Et voilà, il est dans un salon, et... Il y a une femme avec qui, après, il aura une vraie aventure. C'est pour ça qu'il se l'approprie en disant « c'était ma blonde ». Après, il va en parler beaucoup. Et puis, il raconte comment ça s'est passé. Il voit ses épaules. Je ne comprends pas très bien pourquoi elles ne lui font rien. Puisque
mais oui, c'est très mystérieux, ça.
Là, il fait une digression sur les jeunes et les vieilles. Et puis, malgré tout, il tressaille comme une brûlure de ses yeux qui brillent devant lui. Donc, voilà, il tombe amoureux fou.
C'est pas mal, c'est formidable. Bien d'avoir une analyse de texte par Jérôme Clément, ça clarifie les choses. Patrick Beignet, même impression,
non.
D'accord ? Pas du tout.
Non.
Alors racontez-nous la situation selon vous.
Ah, la situation, ben moi je ne la sens pas, je ne la vois même pas la situation,
ah bon
je ne la comprends pas parce que je lis le texte d'un auteur qui met tout son effort, disons, à gagner du temps pour ne pas raconter son histoire.
Ah.
C'est encombré de tergiversations, de refus de dire. Le grand salon était, comme on dit, plein à craquer. Comme je ne sais quoi m'avait retardé. Pourquoi est-ce qu'il ne nous dit pas quoi s'il a quelque chose à raconter? Et c'est comme ça, tout du long. Il ne s'agit pas de cela. Bon, il ne s'agit,
il s'agit jamais de quoi.
Il ne s'agit même pas des épaules, il ne s'agit même pas de la beauté de cette femme. Donc, ça m'énerve. Et donc, voilà, s'il entreprend de nous raconter une histoire, qu'il y aille. Moi, je suis prêt à l'écouter, mais qu'il me dise pourquoi il veut me raconter une histoire.
Donc, on en revient à l'hypothèse de Dominique. Il y a un texte, et puis on ne sait pas pourquoi il est là.
Ce qu'il vient faire là, voilà, j'ai une vague idée.
Ce serait quoi ?
Je pense qu'il est venu chercher des bijoux. Je pense qu'il est là pour voler quelque chose.
Ah !
Ou pour s'expliquer avec un homme à qui il doit de l'argent, ou je ne sais pas quoi. Mais enfin, c'est une sombre histoire assez cynique.
Auquel cas, sa blonde, c'est sa complice. C'était ma blonde, elle est là pour...
Je n'en sais rien, ça, puisqu'ils ne se connaissent pas encore. Peut-être qu'il va peut-être s'en y prendre, je ne sais pas, en fait. Mais en tout cas, il est venu ici pour une sombre affaire.
D'accord, Gérard Mordier, on prépare un casse.
Peut-être, c'est pas une hypothèse à repousser, mais je crois que la chose va se faire effectivement. Je sais pas si c'est un vol, mais en tout cas, bien sûr, la blonde va devenir la complice de cette histoire, mais peut-être une sorte de victime consentante, pas autre chose. Je veux dire, on voit bien là un chasseur quand même, et donc il est à la chasse, il a trouvé sa proie. Il en fera ce qu'il en voudra, puisqu'il ne veut pas dire pourquoi il va le faire. Mais voilà. Mais moi, je vois pas. Je n'ai pas le côté fleur bleue de Jérôme, donc je ne vois pas d'histoire d'amour du tout. Là, je vois une histoire de séduction pure et dure d'un libertin qui va ensuite sans doute faire autre chose avec celle qui l'aura séduite.
Bon, bah, on a plusieurs traces possibles, oui, Patrick Beignet.
Ce qui est étonnant aussi, c'est que dès le début, il est peut-être poussé par une des raisons qu'on vient d'évoquer, mais en même temps, il se laisse prendre par la pièce. Hein. La gaieté de la pièce m'attira de plus en plus.
Il avance.
On a l'impression qu'il va finir sur la scène tellement il est hypnotisé. Donc c'est un peu en contradiction avec l'idée qu'il poursuit ou une femme ou des bijoux. Ou...
Mais c'est gai, moi, je trouve, tout ce texte. Il est joyeux. Quoi.
Dominique Muller.
Cette histoire se situe quand le narrateur est jeune, parce qu'il dit la vieille fémure de celle qui, comme j'ai eu l'occasion de l'observer plus tard, se niche. Ça veut dire qu'il arrive dans ce salon en n'y connaissant pas grand-chose, en étant encore... c'est pas sa place, quoi, ce salon.
Peut-être, oui. Ça pourrait
ouvrir l'hypothèse que c'est un roman fondé sur le voyage dans le temps, peut-être une structure fantastique. Il est dans plusieurs époques à la fois.
Oui, parce que sinon, il aurait dit « comme j'aurais l'occasion de l'observer plus tard ». Donc il dit « j'ai eu », ça veut dire qu'il raconte alors qu'il est beaucoup plus âgé que le moment où cette scène se passe.
C'est très intéressant ce que vous dites, tous les deux d'ailleurs. Gérard Mordia s'est écrit à quelle époque ?
Moi, je pencherais pour le 19e siècle. J'ai l'impression qu'on est là fin 19e plutôt qu'un autre moment. Tout simplement parce qu'il y a les rubans autour...
Le bonnet, les
rubans, etc. Et les dames respectables qui vont au théâtre. Alors, en même temps, là aussi, les dames respectables qui vont visiblement voir une pièce comique. Donc, je ne sais pas si les dames respectables allaient... Parce que c'était de plus la gaieté de la pièce, etc. On aurait pu s'attendre à voir des dames respectables, aller voir plutôt des choses plus sérieuses.
Moi, je pensais que c'était la pièce, le salon, quoi.
Oui, moi aussi. Spécialement. On n'a pas compris la même chose.
Ah, mais moi, je pense que non.
Vous pensez qu'on est au théâtre ?
Peut-être, mais oui, parce que je parfums insensiblement jusqu'au tout premier rang.
Ça commence par le grand salon.
Oui, c'est du théâtre de salon.
C'est du théâtre de salon.
Dans un salon.
Oui, on est dans un salon.
Oui, d'accord.
C'est la même chose.
Un concert bourgeois, quoi. Je vois une espèce de musique de chant avec la fille de la maison qui est en train de brailler sur la scène.
Oui, peut-être, mais il n'y a même pas de scène.
On joue une pièce.
Un café-concert, donc ça plaide pour les années 1890-1900.
Oui, moi je
vous
vois
êtes
ça.
D'accord sur l'époque, tous, de
Luc ? Ah oui, très nettement, à cause des vêtements.
Ça se passe dans ces années-là.
Oui, ça ne veut pas dire que ça a été écrit dans ces années-là.
Certes non, c'est peut-être le 18e siècle.
Et l'époque d'écriture, alors ?
Pas facile.
Non, pas facile. Le style est très limpide. Il y a peu d'éléments forts, peu de choses visuelles, je dirais, à part les détails sur la toilette.
Sinon, cette phrase démodée qui est « je tressaillis comme d'une brûlure ». On ne dit pas ça aujourd'hui, personne ne dit ça aujourd'hui, j'imagine. Personne ne me l'a jamais dit. Oui, très dommage.
Regardez-moi, Dominique. Voilà, ça y est.
C'est, ça y est.
Je tressaille.
Comme d'une brûlure. Mais oui, c'est ça.
Est-ce que ça pourrait être une traduction, Gérard ?
C'est compliqué parce que si c'est une traduction, c'est une très bonne traduction. Avec cette chose curieuse quand même, c'était ma blonde, quoi. Ma blonde est curieux puisque plus loin, il dit c'était la blonde.
Oui.
Bien sûr, il l'a choisie, mais sans doute que ça évoque quelque chose qui se passe avant cette scène-là, quand il prend la décision de trouver une blonde.
Non,
Moi, je pense que c'est une femme qui l'a suivi dans la rue, qui reconnaît.
Ah, peut-être, oui.
Elle arrive et il dit, tiens, là, voilà, je l'ai retrouvée.
C'était oui, la blonde. Oui, très bonne idée. Blonde.
Dans ce cas-là, Jérôme n'y aurait pas, mais nous ne nous connaissions pas encore.
Si, si il l'a rencontrée dans la rue.
Dans la rue. Oui. Oui, il la suit.
J'entends bien, mais oui, le lecteur elle, est au courant qu'il ne la connaît pas encore.
Oui.
Oui, mais enfin, comme il est assez redondant hein, dans son texte, donc on peut penser que...
Mais il y a une sombre histoire avec le ton dans ce texte.
Oui, 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 absolument. Oui. Vous voulez bien nous relire ça, Jacques Vallée ?
Le grand salon était, comme on dit, plein à craquer. Il n'y avait pas une place libre. Et comme je ne sais quoi m'avait retardé, je fus contraint de jouir du spectacle debout. Mais la gaieté de la pièce m'attira de plus en plus en avant et je parvins, insensiblement, jusqu'au tout premier rang où je me trouvais enfin accoudé au dossier d'un fauteuil occupé par une dame. C'était ma blonde, mais nous ne nous connaissions pas encore. Et voici qu'inopinément, juste sous les yeux, ses belles épaules arrondies, si séduisantes, pleines et blanches comme une écume laiteuse, au corps qu'il me fut parfaitement indifférent de contempler d'admirables épaules féminines ou le bonnet à ruban couleur de feu qui couvrait les cheveux gris d'une respectable dame du premier rang. Près de la blonde était assise une vieille fille mûre de celle qui, comme j'ai eu l'occasion de l'observer plus tard, se niche toujours le plus près possible de femmes jeunes et jolies en choisissant celle qui n'aime pas écarter d'elle la jeunesse. Mais il ne s'agit pas de cela, je n'en parle que parce que la vieille fille en question remarqua ma contemplation, se pencha vers sa voisine et avec de petits rires lui chuchota quelque chose à l'oreille. La voisine se retourna et je me souviens que ses yeux brillèrent devant moi d'un tel éclat dans la pénombre que, surpris, je tressaillis comme d'une brûlure.
C'est un très joli texte, oui.
Très mystérieux.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oui, oui, oui.
C'est d'où ça vient, qui a écrit ça ?
C'est une belle et grande histoire d'amour qui débute pour voilà. Vous, Jérôme Clément ?
Oui, oui, moi je tiens. Oui, oui, il la suit dans la rue, elle arrive dans la grande pièce avec le café et théâtre, il la repère, il retrouve sa blonde et puis après ça va démarrer, quoi.
Il y a une autre phrase très... Et voici qu'inopinément, juste sous les yeux, ses belles épaules. Pourquoi inopinément ? Elle est assise là-devant, c'est dans un... C'est très curieux.
Bah, parce que c'est pas ce qu'il cherche. Il cherche à se rapprocher de la pièce, donc...
Enfin, en même temps, il est assis au fond derrière elle, mais il dit qu'il s'accoude.
Il jouit du spectacle debout.
Oui, oui, oui. Mais oui. Après, il s'approche.
Accoudé au dossier d'un fauteuil. Oui.
Voilà, il s'est appuyé sur le fauteuil.
Il a le droit, non ?
Oui.
Oui, mais donc, le fait qu'il ait ses épaules sous les yeux ne devrait pas le stupéfier comme ça, n'est-ce pas ?
Non, moi, le mystère, c'est qu'il est décrit très bien, ses épaules, pleines et blanches comme une écume laiteuse.
Mais c'est pas son genre.
Je lui ai complètement égal.
Et qu'il dit qu'il s'en fiche.
Oui, alors que vous avez l'air très troublé, rien qu'en disant la phrase.
Bah oui, mais oui. Voilà, ça me gêne un peu.
Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il est venu contempler ? Voilà.
C'est qui, lui, Patrick ?
Écoutez, je ne sais pas, François, je suis désolé, mais je peux... En revanche, répondre à une question à laquelle je n'ai pas répondu. La question de la traduction ou pas.
Ah bah oui, j'aimerais bien savoir.
Vous voulez avoir mon opinion
sur
cette intéressante question. Eh bien, je pense que c'est peut-être traduit de l'anglais.
Ah.
Ça pourrait expliquer les derniers mots. Je tressaillis comme d'une brûlure, qui sont peut-être plus faciles à placer en anglais qu'en français. C'est une intuition que j'expose.
Ah mais c'est bien ça. Donc on a trois pistes françaises, une piste anglo-saxonne, plutôt américaine, plutôt anglaise d'ailleurs.
Je dirais plutôt anglaise, mais ça se ressemble par certains côtés.
Oui. Ben, on est content, on a encore des choses à dire sur ce texte. Non ? Un nom alors ? Alors un nom anglais, Patrick Bigny. Ah, oui. Vous avez l'air interloqué, vous ne vous attendiez pas à la question. Si brutalement.
Je pense que c'est un roman, ça peut être un roman d'ordre fantastique.
Oui.
Je pense à des choses du genre Peter Ibbetson ou des choses comme ça.
Ah, oui.
Des auteurs qui ne sont pas archi-célèbres, comme c'est Gérald du Maurier, c'est ça, Peter Ibbetson. Donc c'est peut-être l'obstacle, c'est qu'en principe on choisit des
En principe on joue très avec connus, des très connus, oui.
Mais pour moi c'est la seule façon de résoudre les énigmes temporelles qui se posent. Alors, en même temps, puisque je suis du côté des voyages dans le temps, ça fait penser évidemment à Wells, mais ça... C'est pas vraiment du tout le style de Wells. Donc, j'arrive pas à répondre à la question.
À la question, je reviendrai vers vous tout à l'heure. Dominique Muller, une
idée. Justement, à propos du temps, peut-être que c'est Oscar Wilde et le portrait de Dorian Gray. Ah.
Et donc quelqu'un qui n'aurait pas d'âge, qui n'aurait plus d'âge, qui ne saurait plus quel est son âge. Voilà.
Oscar Wilde.
Oui.
Allez. Alors, ce grand, beau, pur roman d'amour, Jérôme Clément, de qui est-il ?
Je ne sais pas, parce que je suis tellement pris par l'histoire que...
Ah, ça se plaint, oui.
Je n'arrive pas à savoir de qui c'est. Oscar Wilde, je trouve que c'est une bonne idée, j'avoue. J'ai,
merci.
J'y ai pas pensé, mais je trouve que
c'est une
bonne idée.
Venant de vous, ça me flatte beaucoup.
Non, pas du tout, je trouve c'est une très bonne idée. Non, je ne sais pas pourquoi, mais un nom qui m'est venu, Edgar Poe, mais je ne sais pas si c'est...
Ah, ben, c'est un peu...
Voilà,
oui, c'est... pas tellement loin. Aussi,
oui, c'est pas tellement loin, c'est celui que j'avais noté.
Edgar Poe, bon, Gérard Mordilla.
Moi, à cause du côté dandy, je pense à Barbet d'Aurevilly.
Ah oui.
Parce qu'il y a la dimension un peu fantastique aussi.
Aussi du fantastique.
Mmh. Je pense que c'est un bon argument, le fantastique. Ah oui. Et le côté assez misogyne, au fond, et dandy. Et je vois bien Barbet d'Aurevilly.
Ah oui, une vieille maîtresse, le rideau cramoisi.
Oui, ouais, oui.
C'est bien.
Patrick Beignet, je reviens vers vous. Je suis désolée, ça n'a pas évolué.
Je suis dans le même état. Non. Le nom d'Oscar Wilde lancé par Dominique est effectivement très séduisant, mais on ne peut pas trop reprendre les bonnes idées des autres, quand même.
Bah,
mais Edgar Poe aussi, je trouve
Edgar
que c'est
Poe,
très bien.
Il y a plus d'esbrouf dans le style, je pense. Hein.
Alors, mais cependant, il faut que vous nommiez quelqu'un.
Oui, mais au début, je pensais à Jules Verne. Ce n'est pas vraiment le style de Jules Verne. Ce n'est même pas du tout le style de Jules Verne. Mais la situation, le décor, ce grand salon, ça a à voir. Je vais prendre Jules Verne, puisque je ne trouve personne d'autre. Voilà un argument littéraire.
Mais ce serait son genre de s'apesantir comme ça sur les épaules rondes, blanches.
Mais il ne s'apesantit pas. Puisque
enfin, justement, il les dédaigne finalement. Mais enfin, il les nomme quand même. J'ai l'impression
panoramique.
Que Jules Verne ne s'occupe jamais des épaules.
Oh là, ne parlons pas du même Jules Verne alors.
Bon. Bon.
Non, il est capable de s'intéresser à des épaules.
Ah bon ? D'accord. Jacques Vallée, vous avez entendu comme moi. Alors, nous avons un Jules Verne pour Patrick Beignet, un Oscar Wilde pour Dominique Muller, un Edgar Poe pour Jérôme Clément, un Barbet d'Aurevilly pour Gérard Mordilla. Que du beau monde.
Oui, et puis beaucoup de choses justes qui ont été dites, mais malheureusement, il n'y a aucun de ces noms dans la liste que je vais proposer.
Mais des fois, on argumente très bien, puis on a tout faux. C'est étrange. Hein.
Et je propose Stendhal, Dostoïevski, Casanova.
Il y a un grand silence là, subitement.
Non, moi j'en reste à mon voyou, donc je dis Casanova.
Ah, elle en tient pour le vol des bijoux ou voyou, du tableau.
Un voyou. Quelqu'un est venu faire une voyouterie.
Dominique Casanova. Gérard Mordilla.
Moi je penche plutôt pour Dostoïevski. Parce que justement, il y a cet embarras dans la société, et il y a souvent ça chez Dostoïevski, des personnages qui sont en butte à une société qu'ils regardent avec jalousie. Et donc, il y a là quelque chose de cet ordre-là, d'un homme qui... c'est peut-être un passage du joueur de Dostoïevski, du moment où il rentre, et puis il se sent humilié, pas à sa place, et en même temps, il doit y aller. Et ça, je pense que c'est un des caractères qu'on retrouve très souvent chez Dostoïevski.
C'est argumenté, Jérôme Clément, Stendhal, Dostoïevski, Casanova.
Casanova, comme Dominique. Ouais. Parce que c'est enlevé, c'est assez léger, c'est la poursuite d'une femme, donc il y a quand même beaucoup d'éléments. C'est un salon qui peut parfaitement être un salon du 18e, avec aussi ses contradictions. Même la contradiction peut s'expliquer comme ça, c'est-à-dire, il voit des épaules, mais au fond, c'est la conquête. Quoi. Donc voilà, il joue avec tout ça, et ça peut être un passage d'un prélude à une aventure parmi beaucoup d'autres.
De même, les passages du temps, là, si ce sont des mémoires, ça colle parfaitement.
Ouais. Enfin, le grand amour romantique chez Casanova...
Moi, j'ai dit voyou, j'ai dit amour romantique.
Patrick Beignet.
Mais j'arrive pas à croire que Stendhal accumule le genre d'imprécision, les « comme on dit », comme je ne sais quoi. Mais il est désinvolte, c'est sa force, mais c'est pas de cette façon-là. Je ne sens pas non plus Casanova, donc je vais me rabattre sur Dostoïevski.
Et un peut-être petit argument.
Le joueur, peut-être. Ouais. Enfin, ces scènes de société, ça pourrait être ça, mais je ne suis pas très très intimement convaincu que je dis la vérité.
On va le savoir très vite. Jacques Vallée, on vous propose deux Casanova. Ce sont les choix de Dominique Muller, de Jérôme Clément, de Dostoïevski pour Gérard Mordi à Patrick Beignet. Pas de Stendhal.
Non.
C'est l'impasse.
Non. Oui, on pouvait penser.
Ah bon, donc il n'y a pas de Stendhal.
Il n'y a pas de Stendhal, il y a deux gagnants.
Ben oui, forcément. Le suspense est intolérable.
C'est de Fyodor Dostoïevski.
Eh ben...
Ah bon, bah écoute,
et c'est dans
c'est une nouvelle écrite lorsqu'il avait 28 ans, lorsqu'il était en prison, qu'il attendait son procès. Et c'est une nouvelle qui s'appelle « Un petit héros ». Et l'énigme vient qu'il s'agit d'un jeune garçon de 11 ans qui est invité à passer le mois de juillet dans une villégiature proche de Moscou. Et là, il y a continuellement des fêtes, des divertissements, et sorties à cheval, promenades en forêt, repas champêtre, danse, musique, théâtre. Et cet enfant est amoureux d'une belle dame. Ce n'est pas la blonde en question, là, dans l'extrait, parce que cette blonde, c'est la vedette de la compagnie qui ne cesse de se moquer de lui. Mmh. Et alors, pourquoi devient-il un héros, ce petit garçon ? Un matin, toute la maisonnée se prépare à une randonnée, mais il n'y a plus de cheval pour le petit garçon, alors il se désole. On attend un cavalier en retard, et le seul cheval qu'il reste pour ce cavalier, c'est un étalon sauvage que personne n'a réussi à monter. Et quand ce cavalier voit cette bête farouche qui se cabre, qui roule des yeux hagards, injectée de sang, il se déballonne. Et la cruelle blonde, pour faire rire la compagnie aux dépens de l'enfant, le provoque. « Eh bien, toi, le pleurnicheur, ne veux-tu pas essayer ?» Et piqué au vif devant la femme qu'il admire, qui est dans l'assistance et qui le regarde, il bondit sur le cheval qui s'emballe. Enfin, il sera sauvé, mais après, il y aura plein d'aventures avec cette dame, mais c'est pas amoureux, c'est... Il rentre pour la première fois dans la société, il y a des tas d'aventures mondaines après, et Dostoïevski écrit « C'était ma première et très sérieuse impression de beauté ». C'est une très belle nouvelle.
Ça a l'air magnifique.
Oui.
Tout à fait magnifique. C'est... Bravo Patrick Beignet, Gérard Mordillat. En tout cas, il n'y avait pas d'histoire trouble, il n'y avait pas de vol de bijoux, Dominique, pas de vol de tableaux. Non. Et les épaules de la blonde, on comprend finalement, elle n'intéresse pas du tout.
C'est
trop petit.
Mais il est quand même touché. On a 11 ans, on n'est pas moins homme.
Des papous dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par Françoise Trossard avec Anne de Pelchin et Olivier Dupré. À télécharger sur franceculture.fr pendant un an pour vos collections de papous. À réécouter quand le désir est là et pour le plaisir. Vous pouvez aussi écouter directement sur votre ordinateur, tablette et autres pendant 1000 jours. Et puis, baladez-vous sur nos pages vides du club et les livres des papous. Déposez vos commentaires, questions, suggestions. Et découvrez les nouveaux livres, spectacles, expos des membres de notre petite bande. Au revoir, dans quelques instants, vous retrouvez Antoine Perrault pour Tire ta langue sur France Culture. Passez un très bel après-midi à l'écoute.
Quoi, quoi ? Ah !